Bien, bonjour. Donc, le cours que je vais vous dispenser s'intitule Analyse des données quantitatives. Alors, avant de vous présenter le contenu de ce cours, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alexandra Filon. Je suis maître de conférence en sociologie à Rennes 2, ici depuis 2011. Avant, j'étais à l'université de Nanterre, à Paris 10. Et donc, je suis actuellement chercheur au laboratoire Espace et Société, qui est un laboratoire qui regroupe plusieurs disciplines, sociologie, géographie principalement. Je suis également chercheur à l'Institut national d'études démographiques, à l'INED, où j'ai pu faire ma thèse. Alors, quelques mots sur mes thématiques de recherche. Parce que vous allez avoir, au cours de votre cursus, parfois un mémoire à réaliser, des recherches bibliographiques à faire. Donc vous pouvez me contacter, vous pouvez me demander une bibliographie sur certaines thématiques. Donc je travaille en particulier sur les pratiques linguistiques. J'ai fait donc ma thèse, je vous disais, à l'INED, sur la transmission des langues arabes et berbères en France, donc des parents migrants qui sont venus en France et qui ont transmis ou moins, ou non leur langue, donc l'arabe ou le berbère, à leurs enfants. Donc j'ai travaillé et je travaille encore sur cette thématique des pratiques linguistiques, après sur le breton, l'alsacien, sur d'autres langues également. Donc j'ai une entrée aussi sur les migrations. D'ailleurs, j'ai un second cours qui est une introduction à la sociologie des migrations. Et plus récemment, donc j'ai travaillé sur d'autres aspects, d'autres thématiques, notamment l'orientation scolaire des jeunes, mais aussi la question de l'illettrisme. Alors, dans le cours que je vais vous présenter à partir d'aujourd'hui, il s'agit surtout de la méthodologie quantitative, hein, dont il va être question, que je vais essayer de vous, à laquelle je vais essayer de vous initier. Mais de façon générale, dans mes travaux, j'apprécie de mêler la méthodologie qualitative et la méthodologie quantitative. Et donc, dans l'enseignement que je vais vous dispenser, je veillerai à vous montrer la complémentarité qu'il peut y avoir entre ces deux méthodes. Voilà. Alors, quelques mots sur le cours. Donc, c'est un cours, hein, qui s'intitule Analyse des données quantitatives. C'est un cours qui est annuel. Le titre change, mais vous allez voir, il y a une continuité entre ce cours-là, qui s'appelle donc Analyse des données quantitatives, et le second cours qui est dispensé au second semestre, donc, et qui s'appelle Interprétation des données quantitatives. Donc, l'objectif annuel, c'est de vous initier à l'analyse factorielle des correspondances. Alors, sans doute, vous n'en avez pas encore entendu parler, mais je vais essayer de vous apprendre ce qu'est cette méthodologie quantitative, donc plutôt une méthodologie inductive. Alors, ça c'est la finalité de l'année, hein, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, vous soyez en mesure déjà de dire ce que c'est qu'une analyse factorielle des correspondances, mais aussi de lire un plan factoriel, de comprendre, hein, une analyse menée à partir de cette méthodologie afin d'avoir un regard critique sur les données qui sont produites. Donc, au cours du premier semestre, on ne va pas parler directement de l'analyse factorielle des correspondances. Je vais plutôt vous présenter les premières étapes qui mènent ensuite donc à cette décomposition factorielle. Donc, ces premières étapes sont essentielles pour comprendre comment on réalise une analyse factorielle, mais on ne parlera pas directement au cours du premier semestre de l'analyse factorielle. Alors, comment je conçois cet enseignement? Je vous l'ai dit, mon but premier, c'est que vous soyez, en tant que sociologue, en tant qu'apprenti sociologue, c'est que vous soyez en mesure de lire n'importe quel article, donc qu'il y ait des données qualitatives, qu'il y ait des données quantitatives, vous devez être en mesure de comprendre ce qui est écrit, donc de lire un tableau, de lire un graphique, quelles que soient les données qui sont produites, vous devez être en mesure de les comprendre et, dans l'idéal, vous devez être en mesure de porter sur ces données, chiffrées ou pas, hein, que vous devez être en mesure de porter un regard critique, c'est-à-dire pas seulement de savoir les lire, mais aussi de les remettre en question et de vous demander si c'est pertinent, comment ça a été construit, où ça nous mène, qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà. Donc, c'est mon objectif, hein, premier dans l'enseignement que je vous dispense. C'est pas seulement de vous apprendre à travailler avec des chiffres, à faire des calculs. C'est pas ça qui m'intéresse prioritairement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres, comment on les lit, comment on les remet en question. Voilà, tout ce qu'il y a aussi autour de ce chiffre, c'est-à-dire avoir une vraie lecture sociologique de ces données quantitatives. Alors, le semestre va se dérouler comme suit. Donc aujourd'hui, quoi, là, de suite, nous allons aborder l'introduction générale qui porte sur l'utilité donc des statistiques en sciences sociales, en quoi maîtriser la statistique, l'outil statistique est nécessaire en sciences sociales. On n'est pas seulement des qualitativistes, hein, on est aussi des quantitativistes et avoir la double casquette, c'est fortement utile. Donc on va aborder cela dans un premier temps dans l'introduction générale, puis le cours se décomposera en quatre principales parties. Donc une première partie qui s'intitule du questionnaire au traitement statistique, où là on reviendra donc sur la production de ces données statistiques. Qui produit ces données? Est-ce qu'elles sont produites par tous de la même façon? Est-ce qu'elles ont la même qualité? Est-ce qu'on peut voilà, s'en servir pareillement selon la source? Je vous proposerai quelques définitions préalables pour mettre en place donc un traitement statistique. Et je vous présenterai donc les deux grands types de données d'enquête quand on mène une analyse statistique. Ce qui est très important parce que vous verrez que selon le type de données auquel on a affaire, on ne va pas recourir aux mêmes analyses. Et donc, évidemment, il faut être en mesure de savoir à quel type de données on a affaire. Ensuite, on entrera dans un deuxième temps dans des parties plus d'applications, hein, processus calculatoire assez simple. Alors oui, ce que j'ai pas dit aussi dans ma pédagogie, c'est que dans le cours, hein, que je vous présente, je considère que vous avez des profils tous assez variés, vous avez des trajectoires très différentes les uns des autres. Et donc je repars un peu de zéro. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire de vous des mathématiciens. Hein. Je sais que pour certains, vous avez une certaine angoisse face aux chiffres. Donc, on repart un peu de zéro et vous verrez que vraiment, pour le premier semestre, pour le deuxième semestre, deuxième cours, ça se complexifiera un petit peu. Mais là, pour le premier semestre, vraiment, on se limite à faire des additions, des soustractions, des produits en croix, voilà, des multiplications, des divisions, et c'est à peu près tout. Hein. Donc, il n'y a pas de, je n'utilise pas de sigles mathématiques. Donc, vous verrez que j'essaye de rendre ce cours le plus abordable possible. Donc, deuxième étape, on parlera donc des différentes façons de présenter les données quantitatives, donc du tri à plat au tri croisé, de façon de présenter les résultats, assez simples. Mais vous verrez qu'à partir déjà de ces deux types de tableaux, que sont le tri à plat et le tri croisé, on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres et on peut déjà produire une analyse sociologique intéressante. Dans une troisième étape, là, on en viendra à des aspects sans doute moins connus, sans doute moins connus de votre part. Donc, attraction, ça s'intitule attraction et indépendance. Donc, on ira regarder les liens, les liaisons entre les modalités des variables. On verra ça donc au fur et à mesure. Et enfin, donc le semestre se termine sur le fameux test du QI2, qui est un test de significativité pour voir si les données, les résultats que l'on produit sont fiables et donc si on peut réellement interpréter et discuter les chiffres que l'on a produits. Voilà donc pour le déroulement du semestre. Alors vous pouvez vous appuyer sur certains ouvrages. Donc ça, c'est la bibliographie que je vous propose. Elle vous sert au premier semestre et au second. Donc il y a plusieurs types d'articles hein, ou d'ouvrages. Soit des textes qui portent plutôt sur comment on produit, donc toute la réflexion qu'on va avoir là en introduction, comment on produit ces chiffres, où nous mènent ces chiffres. Voilà, il y a de plus en plus de chiffres aujourd'hui, on raisonne beaucoup à partir d'indicateurs, mais finalement, est-ce que ça a du sens et quel sens surtout ça a? Qu'est-ce qu'on leur fait dire et quelles bêtises parfois on leur fait dire. Donc il y a un certain nombre d'articles et d'ouvrages qui reviennent sur cette réflexion sur la construction même donc d'indicateurs statistiques. C'est le cas de l'article de Michel Golac dans la Revue française de sociologie. C'est le cas aussi donc de l'ouvrage de Claseman qui s'appelle Attention statistique, qui est pas très récent, mais qui est très bien fait. L'ouvrage d'Olivier Martin, donc L'enquête et ses méthodes, l'analyse des données quantitatives. Donc ça, c'est un petit ouvrage assez court, mais qui balaye assez bien. Donc, ce que c'est qu'analyser des données quantitatives en sciences sociales, évidemment. Donc, il revient sur les principaux éléments qu'on verra tout au long du semestre. Il dit deux, trois mots sur l'analyse factorielle. Il ne s'étend pas dessus, mais donc c'est un petit ouvrage qui peut vous suivre, vous accompagner tout au long de l'année. L'ouvrage de Michel Novy, donc Pourcentage et tableaux statistiques, lui, il vous sera plutôt utile pour les deuxième et troisième parties du cours. Donc vraiment sur la construction des tableaux, le passage des effectifs au pourcentage. Donc c'est plutôt là un petit que sais-je, quoi, un petit ouvrage assez court, mais qui peut vous aider pour les applications du cours. Donc l'ouvrage de Jean-Claude Passeron, donc le raisonnement sociologique, je vous invite évidemment à le lire en intégralité parce que c'est un classique en sociologie. Après, il y a une partie qui est plus sur les tableaux, justement la construction de tableaux, l'analyse de données quantitatives. Donc c'est une partie, un chapitre qui s'appelle Ce que dit un tableau et ce qu'on en dit. Donc là, c'est toujours sur l'interprétation, quelle interprétation on peut mener à partir de données quantitatives. Et enfin, je vous ai mis donc un petit nom, un ouvrage plus récent qui date de 2009, qui s'appelle Le raisonnement statistique en sociologie, où celui-ci, pareil, il peut vous suivre tout au long de l'année. Il y a toute une réflexion sur, sur l'analyse factorielle des correspondances, sur d'autres méthodologies quantitatives, ce qu'on appelle la statistique inférentielle, avec la régression logistique. Donc des choses qu'on n'abordera pas directement là, cette année, ensemble, mais si ça vous intéresse, et j'espère que ça sera le cas, je vous invite donc à lire là aussi cet ouvrage dans son intégralité. Sachant que, comme tous les ouvrages, alors je ne dirais pas ça pour les articles, hein, mais comme tous les ouvrages, vous n'êtes pas obligé de partir du premier chapitre pour arriver au dernier. Ça, c'est typiquement un ouvrage qui peut se lire de façon un peu décousue selon vos envies du moment. Voilà, alors juste, donc ce cours s'accompagne d'un TD. Pour faire les applications, pour faire les exercices hein, du TD, il vous sera utile évidemment d'avoir votre cours à portée de main. Hein, donc le cours et le TD sont vraiment très liés. Et donc vous verrez au fur et à mesure du cours, vous pourrez commencer les applications du TD. Mais je vous invite toujours à avoir... Donc, pris des notes pour ce cours et à les avoir à portée de main pour ensuite faire les applications du TD. Alors, pour commencer, avant d'entrer dans le vif de l'introduction, un petit test introductif pour vous montrer l'intérêt d'avoir recours aux données quantitatives. Parce que, assez souvent, par commodité, hein. On a des étudiants, mais aussi des chercheurs expérimentés qui utilisent avant tout, principalement, les données qualitatives et qui mettent un peu de côté les données quantitatives en se disant que ça, c'est plutôt les démographes, les statisticiens, les économistes, mais que le sociologue, lui, avant tout, il va sur le terrain et qu'aller sur le terrain, ça veut dire produire des données qualitatives. Donc là, je voudrais, très rapidement, hein, vous montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à toujours se poser des questions d'ordre plus statistique, plus quantitatif. Imaginons que vous avez décidé de mener votre terrain, votre mémoire, votre petite recherche, quelle qu'elle soit, sur les ouvriers, les modes de vie des ouvriers, les vacances des ouvriers, les relations intergénérationnelles des ouvriers, peu importe, hein, là il y a plein d'entrées possibles, les ouvrières et leur travail. Donc, une première question, qui semble inévitable, si vous avez décidé, même si vous faites de l'observation, hein, que vous allez en usine, que vous allez récupérer des discours d'entretien, une première entrée, première question que vous devez impérativement vous poser, c'est combien est-ce qu'il y a d'ouvriers en France? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler sur cette question des ouvriers, quelle qu'elle soit, même si vous avez l'intention de mener une analyse très qualitative, vous ne pouvez pas vous interroger sur, vous intéresser à cette question sans vous poser en amont la question de combien d'ouvriers en France il vous faut impérativement avoir un ordre de grandeur. Combien d'ouvriers en France? Alors, 200 000, 1 million, 10 millions? Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur ce chiffre des ouvriers? Et aussi, évidemment, première question qui émerge hein, de suite, c'est bah, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier et quels sont les ouvriers qui occupent un emploi. Donc, parmi la catégorie des ouvriers, ceux qui occupent un emploi, on en compte aujourd'hui à peu près 5,5 millions. Donc 5 millions et demi d'ouvriers en France actuellement. Bon, ça nous donne déjà un premier ordre de grandeur, mais assez rapidement, bon, ça peut aussi nous laisser perplexes. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu, 5 millions et demi? Par rapport à quoi? Comment lire ce chiffre? Donc on peut essayer d'aller plus loin et se demander, bah, ok, donc les ouvriers qui occupent un emploi sont 5,5 millions par rapport à l'ensemble des actifs occupés, par rapport à l'ensemble des personnes qui en France occupent un emploi, qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Donc les actifs occupés, donc ça suppose, deuxième étape, ça suppose d'avoir un regard sur le nombre d'actifs occupés en France. Les actifs occupés en France, on les estime aujourd'hui à environ 26 millions. Donc nous avons 26 millions d'actifs occupés et parmi ces 26 millions d'occupés, nous avons 5,5 millions d'ouvriers. Ça représente quoi? Ça représente 21%. 21% aujourd'hui des actifs occupés sont des ouvriers. Bien. Déjà, à partir de ce pourcentage, et on peut même aller faire plus simple hein, et dire aujourd'hui à peu près un cinquième des actifs occupés sont des ouvriers. Là déjà, si on veut travailler sur ce groupe social, on a un premier regard sur ce qu'ils représentent dans la société, comment ils sont visibles ou pas. Donc, un cinquième de la population active occupée aujourd'hui est ouvrière, sachant, on peut là aussi creuser, hein, mais hein, on ne va pas le faire ici, on peut creuser et voir que ce sont principalement des hommes, que ces hommes vivent principalement dans tel milieu, etc., etc. Et là, on peut essayer de saisir quantitativement d'autres aspects de ce groupe social. Mais on n'a pas terminé notre réflexion, puisque notre question de départ, c'est combien d'ouvriers en France? Combien on a d'ouvriers? Donc, on a vu ceux qui occupent un emploi, mais il ne faut pas oublier que dans la catégorie des ouvriers, il y a ceux également qui sont au chômage. D'accord? Donc, occuper le statut, avoir le statut d'ouvrier, c'est occuper un emploi d'ouvrier, mais c'est aussi être un ouvrier au chômage, puisqu'ils font partie donc de la population active et sont donc compris dans ce groupe d'ouvriers. Donc combien d'ouvriers sont actuellement au chômage? On en compte à peu près 14%. 14% qui sont sans emploi. Donc si on compare à d'autres groupes sociaux, on peut voir que c'est un groupe où le taux de chômage est particulièrement élevé. Ça, c'est une première piste hein, qu'on peut aussi c'est une autre piste qu'on peut aussi creuser si on s'intéresse à cette question ouvrière. Et ensuite, l'idée, donc pour répondre à notre question de départ, combien d'ouvriers en France, l'idée c'est de pouvoir donc calculer, donc là très simple, mais bon, une petite gymnastique à faire, pouvoir calculer combien on compte d'ouvriers en France en tout, c'est-à-dire ceux qui occupent un emploi plus ceux qui sont actuellement au chômage. On a dit. Donc nous avions 14% de chômage. Donc sur notre 100% qui représente l'ensemble des ouvriers, on a 14% de chômeurs, plus 86% d'actifs occupés. Les 86% d'actifs occupés, ça, c'est une information dans l'équation, c'est une information que l'on connaît déjà. On sait que ces actifs occupés, donc qui occupent le statut d'ouvrier, ils sont 5,5 millions. Donc les 86% représentent 5,5 millions. Donc maintenant, si on cherche à trouver le 100%, l'ensemble des ouvriers, il va falloir procéder à un produit en croix, donc 5,5 millions multiplié par 100, divisé par 86, et ça nous donne donc notre population totale ouvrière, à savoir près de 6,4 millions d'ouvriers. Si je veux retomber sur mes 14% qui sont sans emploi, il me suffit donc de faire une soustraction. Les 6 millions, on va dire 6,4 millions moins les 5,5, et ça nous donne donc près de 900 000 ouvriers actuellement au chômage. Alors, pourquoi ce petit test, pourquoi ce petit exercice? Déjà, un, pour que vous vous rendiez compte que souvent, donc voilà, faire de la sociologie, c'est s'intéresser aux relations sociales dans la société. Ça suppose quand même d'avoir un regard sur comment cette société est composée. Donc, savoir combien il y a d'ouvriers en France, savoir combien il y a de cadres. Combien de femmes sont actives, toutes ces informations-là, ces ordres de grandeur-là, à votre niveau, il est impératif d'en avoir connaissance. D'accord? Donc ça, c'est quand même la première chose à quoi servait ce petit test, c'est que si vous aviez en tête qu'il y a à peu près 200 000 ouvriers en France, là, voilà, il faut un peu peut-être lire les journaux et vous documenter pour avoir une meilleure connaissance quand même des individus qui composent la société et avoir un ordre de grandeur un peu plus précis. Donc, travailler même qualitativement sur un sujet de recherche, ça suppose d'avoir un regard sur la situation dans son ensemble, et donc il est nécessaire, quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, il est nécessaire de pouvoir contextualiser, de pouvoir cadrer, compter, et ce comptage donc qu'on vient de faire là, hein, comptage assez simple, hein, qui rapidement nous dit combien de chômeurs, quelle part ils représentent par rapport à l'ensemble des actifs, ce comptage-là nous permet, est un premier début d'analyse sociologique, puisqu'il nous permet de mieux comprendre, de mieux expliquer, de mieux analyser la société et de pouvoir être plus précis sur cette catégorie des ouvriers. Donc ça, c'est un élément qu'on a pu l'avoir à travers ce petit test. La deuxième chose qu'on a vue et on va essayer d'avoir en tête tout au long de ce cours, c'est que pour compter, pour dénombrer, il faut définir. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez là mettre un warning et vraiment avoir en tête. Pour compter, il faut définir. Il y a plein de façons de compter. Compter ce que c'est qu'un ouvrier, est-ce qu'on inclut les chômeurs, est-ce qu'on n'inclut pas les chômeurs, est-ce qu'on voilà, qui on prend en compte, est-ce que les retraités doivent faire partie de la catégorie des chômeurs, comment ils sont considérés aujourd'hui, voilà. Il faut impérativement, lorsqu'on compte, savoir exactement ce qu'on compte. Et il y a plusieurs façons de dénombrer, il y a plusieurs façons d'établir donc une quantification. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça permet de relativiser aussi l'importance qu'on peut accorder aux chiffres, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrais chiffres. Il n'y a pas une vraie mesure, un chiffre comme ça qui serait la réalité. On choisit des critères Et à partir des critères qu'on a choisis, on va dénombrer d'une certaine façon, sachant qu'il y a plusieurs façons de dénombrer. Et c'est comme ça, je ne sais pas si vous avez en tête les débats qu'il y a pu y avoir sur le chômage, sur les chômeurs, c'est comme ça qu'on arrive à des polémiques sur combien il y a de chômeurs, parce que la façon de compter n'est pas forcément la même. Bon, voilà, il y a aussi là, je vous invite à lire, hein, il y a plein de livres sur ces questions-là, sur les chiffres de l'insécurité, par exemple, comment on compte hein, la délinquance, comment on compte les crimes. Et là, il y a évidemment une dimension politique qui est aussi centrale et qu'on doit avoir en tête parce que bah, selon les situations, on va avoir un intérêt à avoir les chiffres grossir, prendre de l'ampleur ou au contraire diminuer, d'où des catégories de chômeurs qui, par exemple, disparaissent, ne sont plus comptabilisées, ou d'où des chiffres de la délinquance qui peuvent, à certaines périodes hein, politiques, diminuer là aussi ou augmenter parce que la mesure n'est plus la même. Donc toujours avoir un regard critique sur les chiffres et savoir comment ils ont été produits. Donc l'intérêt du dénombrement, il est politique, l'intérêt, il est évidemment économique et sociologique, puisque dénombrer, c'est aussi, ensuite par la comparaison, c'est aussi révéler des inégalités, des discriminations, et ça peut donc être évidemment un élément central pour le sociologue, pour les sciences sociales en général. Voilà. Alors, venons-en à présent de façon un peu plus officielle, on va dire, à l'introduction générale et donc à l'utilité de la statistique en sciences sociales. Donc, à quoi sert la quantification? Donc, on l'a vu hein, un peu en amont à travers l'exemple qu'on vient d'aborder. Donc, la quantification, c'est évaluer un phénomène social, être capable de quantifier. De quantifier ce phénomène et donc de pouvoir renseigner sur les comportements des individus, d'explorer quantitativement certaines situations sociales. Juste un petit détour historique. À l'origine, la statistique hein, était, 17e, 18e siècle principalement, la statistique, c'était l'outil pour gouverner, c'était l'outil principal d'un gouvernement, de la monarchie, d'un État par la suite. Et on disait que les chiffres permettaient étaient un miroir du prince, c'est-à-dire ça servait aux dirigeants, donc aux monarques. Hein, ça servait aux monarques d'avoir un regard sur leur richesse, hein, combien de sujets, combien de bêtes, combien de nourriture, combien de fonds fiscaux ils pouvaient récolter, combien de. Voilà, l'étendue de la richesse d'une nation, d'un pays. Donc c'était vraiment un outil pour le prince et progressivement, donc le chiffre. Les chiffres, la quantification, c'est devenu davantage un outil scientifique, un outil social, et c'est donc du miroir du prince, on est passé au miroir du peuple, puisque, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça permet de révéler des inégalités, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la vie en société, de la réussite scolaire, des choix électoraux, des individus, voilà, plein de phénomènes sociaux qui sont importants, évidemment, pour les individus. Donc là, il y a eu progressivement, hein, au fil des siècles, un basculement d'un outil, la statistique, qui était destinée uniquement à l'origine à des fins politiques, politiciennes, et qui est devenue donc un outil pour le peuple, donc scientifique, social, plus largement. Donc, ça sert la quantification également, donc évaluer l'importance d'un phénomène, donner un ordre de grandeur sur ce phénomène. Ça sert à apporter des preuves, à objectiver également un phénomène. Alors, ça ne veut pas dire que les données qualitatives ne permettent pas l'objectivation, mais c'est vrai que par le chiffre, on arrive plus facilement déjà à prendre de la distance par rapport à l'objet étudié et également donc à révéler des irrégularités, des invariances qui sont moins visibles, moins facilement détectables, hein, donc à partir des données qualitatives. Deuxième élément, la scientificité de l'outil statistique. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, auparavant, il faut toujours avoir un regard critique sur les données qui sont produites, puisque certains chiffres sont produits à des fins commerciales, hein, à des fins autres que scientifiques, et peuvent donc être produites avec un certain manque de rigueur. Mais pour autant, la statistique est une méthode scientifique, c'est une méthode qui se veut rigoureuse, très rigoureuse, et qui permet donc d'étudier d'un point de vue quantitatif les phénomènes sociaux. Comme je vous l'ai dit aussi, mais je le répète, c'est une méthode qui est utilisée par les sociologues, mais pas seulement, elle est aussi largement utilisée par les démographes, par les historiens, par les économistes. Et donc, on peut partager là aussi certains pans de connaissances sur ces phénomènes sociaux. Comme n'importe quelle méthode, donc n'importe quelle méthode utilisée, hein, qu'il s'agisse de la statistique, de l'observation ou de la méthode par entretien, ou aussi autre méthode un peu moins utilisée en sociologie, mais l'exploitation de données archivistiques, c'est une possibilité. Il faut avoir en tête que cette méthode, comme les autres, hein, comme les entretiens recueillis, ce n'est que le début de l'analyse sociologique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la statistique permet de décrire, elle permet d'expliquer des comportements, des opinions, mais il y a une deuxième étape, et ça, on y reviendra à plusieurs reprises, hein, tout au long de ce cours. Il y a une deuxième étape qui est la phase d'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et ça, quand même un certain nombre d'étudiants ont du mal à l'entendre, on ne peut pas se satisfaire de simplement dire. Voilà, il y a tant de pourcents d'ouvriers qui sont chômeurs. 14% d'ouvriers sont chômeurs, c'est beaucoup, c'est peu. Oui, mais où ça nous mène? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la catégorie des ouvriers est plus touchée par le chômage? Comment le comprendre? Comment l'interpréter? Et ça, cette deuxième étape qui est une fois qu'on a dit le chiffre, on a décrit une situation sociale grâce à cette donnée quantitative. Ensuite, il est nécessaire de se fendre d'une interprétation. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse du phénomène. Et c'est ça que la plus-value que doit apporter le sociologue. Aller au-delà de ces résultats chiffrés et être capable donc de produire une véritable analyse. Alors, pour expliquer ça, prenons un exemple concret, un exemple classique en sociologie. On sait que le milieu social d'origine joue sur la trajectoire scolaire des enfants. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas les mêmes chances, par exemple, d'accéder, les enfants n'ont pas les mêmes chances d'accéder au baccalauréat selon que leur père ou leur mère est ouvrière ou selon qu'ils sont enfants de cadre. Donc ça, c'est un résultat statistique, une description, hein, avec des taux. On compare deux taux et on voit que d'un côté, on a un chiffre beaucoup plus élevé que de l'autre. Et ça, il y a une certaine régularité, hein. C'est une différence, une inégalité selon l'origine sociale qu'on observe, que Bourdieu, en son temps, avait déjà observé, et donc qu'on observe depuis des décennies. Une fois, quand on a dit ça, quand on a décrit ce phénomène-là, on ne l'a pas interprété. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas cherché à comprendre comment expliquer qu'il y a ce décalage, comment expliquer aujourd'hui que les enfants de cadre réussissent mieux à l'école. Donc, deux pistes de réponse, et depuis, il y en a bien d'autres. Hein. Là aussi, en sociologie de l'éducation, les recherches sont très riches, mais deux pistes, on a celle de Pierre Bourdieu, donc, dont je viens de vous parler, théorie plutôt déterministe, qui parle du handicap socioculturel et qui nous dit, donc piste d'interprétation, il nous dit, c'est finalement parce que ces enfants évoluent dans des milieux où les parents ne détiennent pas les mêmes capitaux, il parle même d'un manque de capitaux dans les milieux les plus défavorisés, capitaux économiques, mais pas seulement, hein, capitaux culturels, sociaux, symboliques, donc des capitaux qui seraient moindres donc les milieux populaires et qui seraient davantage présents dans les milieux les plus favorisés. Donc là, il y a une certaine, nous dit-il, une certaine reproduction sociale qui est en partie favorisée par l'école. On a donc ça, cette analyse, cette première piste, cette analyse de Pierre Bourdieu, qui peut être contrebalancée, autre exemple, par celle de Boudon, qui lui, dans son approche plus individualiste, hein, on parle de l'individualisme méthodologique de Boudon, qui lui laisse davantage de place à l'acteur, c'est-à-dire que hein, dans la perspective de Bourdieu déterministe, finalement, les enfants sont un peu pris par ce milieu social, pris par ce contexte dans lequel ils évoluent. Dans la perspective boudonienne, l'acteur est plus présent et il nous dit finalement, les individus ne sont pas seulement passifs, ils ne subissent pas seulement les contraintes sociales de leur milieu social, donc de la sphère familiale dans laquelle ils évoluent. Ils raisonnent, ils réfléchissent en termes de coûts et d'intérêts qu'ils peuvent avoir à poursuivre leurs études. Et donc, c'est un peu de façon raisonnée qu'ils vont décider de poursuivre ou non, qu'ils vont ajuster leur trajectoire scolaire selon ce qu'ils ont à gagner ou à perdre sur le long terme. Donc on a là davantage une rationalité de l'acteur qui est mise en avant. Donc vous voyez à travers, de façon un peu caricaturale, pardon, parce que voilà, c'est pas un cours de socio-éducation que je vous dispense, mais vous voyez juste à travers ces deux pistes qu'on a des analyses qui sont produites et que l'analyse, c'est pas seulement décrire, l'analyse, c'est aller plus loin et tenter une interprétation. Alors vous n'avez pas toujours les billes pour mener une interprétation jusqu'au bout, mais vous devez quand même, à partir de ces chiffres, on verra ça au cours du semestre, hein, vous devez quand même, à partir des résultats, donc de la description que vous allez produire, vous devez au moins essayer d'émettre quelques hypothèses, de questionner ces chiffres pour essayer d'aller plus loin que la simple description. Voilà, donc dans l'apport de l'outil statistique, il y a aussi le fait que on va au-delà de l'échantillon que l'on a sélectionné. Donc un échantillon, on y reviendra, hein, c'est une partie de la population. Une partie de la population qui est censée, lorsque cet échantillon est représentatif, cet échantillon est censé parler pour l'ensemble de la population. D'accord? Ça signifie qu'on peut extrapoler les résultats, on peut aller au-delà des simples, je ne sais pas si on a interrogé 500, 1000, 10 000 individus, on peut extrapoler, on peut aller au-delà des résultats produits sur ces 5, 10 000 individus et dire les femmes ouvrières en général ont tel ou tel comportement. Ce qui est plus difficile à réaliser donc à partir d'une enquête qualitative, d'ailleurs ce qui n'est pas forcément la finalité de l'enquête. De l'enquête qualitative. Alors, troisième élément qu'il faut jamais perdre de vue, dont je vous ai aussi déjà parlé là dans le petit test introductif, c'est l'idée que la statistique est une construction. Donc, la statistique, l'outil statistique est très utile en sciences sociales. Mais pour cela, il faut être en mesure de le manier correctement, de le manier en ayant toujours en tête que donc nous avons produit ces données. Ces données ne sont pas, contrairement à leur nom, ces données ne sont pas données. Hein? C'est pas la réalité qui d'un coup est accessible. Ce sont des données qui sont construites et comme je vous l'ai dit, elles peuvent être construites différemment en fonction de la période, en fonction du producteur de ces données. Donc il faut toujours avoir en tête que ces données ont été produites, savoir qui les a produites et toujours revenir à l'étape préalable à leur construction, aux choix qui ont été opérés. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de favoriser tel ou tel critère dans la définition de l'indicateur, par rapport à quelle problématique, par rapport à quelle finalité. Donc essayez vraiment de retracer le parcours de construction de ces données. Ça permet de pouvoir non pas effacer les biais, parce que dans toute donnée, qu'elle soit qualitative ou quantitative, dans toute donnée, il y a des biais, hein, parce qu'il y a un enquêteur, parce que aucune donnée n'est parfaite, évidemment, parce qu'il y a des choix qui ont dû être faits. Donc, il y a toujours des biais possibles. L'idée, ce n'est pas de les effacer, mais l'idée, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir les contrôler. Donc, ça, ce que je dis là, hein, c'est vraiment valable pour les données qualitatives comme pour les données quantitatives. Avoir conscience des limites des données qu'on utilise. Là aussi, c'est une étape nécessaire à l'interprétation. On interprète tout en sachant qu'il y a certains biais, certaines limites aux données qui ont été produites. Et à partir donc de cette conscience des biais, on peut quand même donc mener l'analyse sociologique. La statistique, donc je vous ai dit hein, précédemment également, la statistique, dans ma façon de l'apercevoir, la statistique ne s'oppose pas à la méthode qualitative, aux méthodes qualitatives. Donc on n'a pas d'un côté les méthodes quantitatives et qui seraient concurrentes des méthodes qualitatives. Il faut plutôt avoir en tête que ces données, c'est un niveau d'observation, une échelle d'observation. Ça signifie que ça donne à voir un phénomène social de façon plus ou moins fine. Hein. On a donc avec les données quantitatives, on a une vision plutôt macro. Hein. C'est comme si on prenait une photo d'un avion. Hein. Donc on a voilà, quelque chose de large, un plan large qui est fait. Alors que lorsqu'on a recours à des données qualitatives, on va avoir un zoom qui est fait sur certains détails, certaines nuances, d'où la nécessité de pouvoir cumuler ces méthodes, conjuguer ces méthodes, dresser un plan large et puis ensuite resserrer et évidemment faire dialoguer les données quantitatives avec des données qualitatives. Ça ne peut être qu'une richesse supplémentaire pour les sciences sociales. Donc ça, cette idée hein, qu'il n'y a pas une opposition, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on peut mener de front approche qualitative et approche quantitative. Il y a des sujets qui s'y prêtent pas. Il ne faut pas non plus forcer la donne et essayer absolument d'avoir les deux niveaux d'analyse. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'opposition, à mon sens, hein, entre ces deux types de données. Il y a une complémentarité. Et selon ce que l'on dit, hein, c'est finalement pour décider si je vais avoir recours, dans le cadre de votre mémoire par exemple, savoir si vous devez avoir recours plutôt à une méthodologie quantitative ou une méthodologie qualitative. Alors il y a des aspects pratiques qui entrent en jeu, bien sûr. Hein, monter un questionnaire, mettre en œuvre un questionnaire, le passer, le saisir, ça prend du temps, peut-être plus de temps que de réaliser 10, 15, 20 entretiens. Donc parfois, c'est pas forcément le même coût, c'est pas forcément, voilà, il y a cette dimension qui entre en jeu. Mais au-delà de ça, c'est surtout quelles questions je me pose. Selon la question, la problématique que je mets en œuvre, la réponse sera avec des données qualitatives ou avec des données quantitatives. Donc normalement, c'est votre question, votre problématique qui amène une certaine méthodologie. Et ce n'est pas, ce qui arrive souvent, votre plus ou moins grande connaissance d'une méthode qui vous décide à choisir telle ou telle méthode. Normalement, vous devriez avoir, être en mesure hein, de mener une analyse quantitative ou qualitative de la même façon.